Et bienvenue dans les entrevues de Mel, l'émission qui donne la parole à des personnes au parcours hors du commun et qui partage le témoignage de personnes extraordinaires. Et je déclare notre 8e émission ouverte avec Patrick.
Bonjour. Salut Patrick. Mel.
Comment tu vas ce matin ? Enfin, cet après-midi, pardon.
Ben, ça va très bien, Mel, et toi ?
Bah ouais, bien. Dis-moi, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Possos.
Ah oui.
Un personnage super important dans ta vie.
Oui.
Dans ton parcours de soins.
Absolument.
Dans ta résilience.
Ouais.
Il nous a expliqué un peu, peut-être qu'on le mettra en podcast, mais il nous a expliqué vraiment tous les mécanismes de l'alcool et de l'addiction. Une émission très, très intéressante. Et les gastro-entérologues, c'est lui qu'on te conseille d'aller voir à un moment donné aux urgences de 7. Et c'est pour ça aussi que tu pars en post-cure à l'ODEV. Et c'est ce que tu nous disais un peu dans la dernière émission. Cette post-cure, tu y découvres quand même une certaine logique dans le soin, avec un contrat, avec un emploi du temps bien précis, réglé comme du papier à musique. Tu me dis si je me trompe.
Ouais, mais je te suis, j'attends que tu me donnes la parole, parce que déjà, j'ai plein d'idées qui émergent.
C'est génial, c'est génial. Et c'est vrai que moi, quand on signe ce contrat pour 7 semaines, quand cet emploi du temps est bien réglé, je suppose que tout ça, ça a du sens en post-cure, et je voulais savoir quel sens ça avait fait pour toi.
D'accord. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, je vais bien préciser qu'il y a deux grandes phases dans le soin aujourd'hui en addictologie. Il y en a même trois. La première, c'est une prise en charge en urgence, c'est-à-dire que là, on ne va pas traiter ni la maladie OH, donc vulgairement l'alcoolisme. On va prendre état d'urgence du patient. On va le maintenir en vie. Voilà. Ça, c'est les urgences. Ensuite, il y a la partie prise en charge addicto avec en général une cure, séance entre hospitalisés, donc hôpital, clinique. Le principe est simple, c'est que quand on arrête l'alcool, on se déshydrate. Si on se déshydrate, on meurt. Donc, quand on arrête l'alcool, parce qu'on boit beaucoup d'alcool au quotidien et qu'on arrête de boire de l'alcool, on peut mourir de l'arrêt de l'alcool.
Donc, c'est très dangereux.
Absolument. Donc, c'est important de ne pas arrêter l'alcool lorsqu'on est alcoolodépendant avec une quantité d'alcool importante, tout simplement dans le volume d'alcool qui est consommé. Ça peut être de la bière très légère, mais donc à 3-4 degrés. Mais si tu bois 2 litres de bière par jour, en attendant, tu n'as pas bu 2 litres, mais presque 2 litres d'eau tous les jours quand même. Donc tu t'hydrates, et le principe de l'arrêt de l'alcool, c'est d'arrêter de t'hydrater avec l'eau qui est contenue dans les bouteilles d'alcool qu'on consomme, dans la boisson. Et donc, pour faire cette cure, il faut absolument être médicalisé, il faut être en perfusion avec une eau sucrée qui t'hydrate, ce qui permet d'avoir l'énergie pour ton cerveau et de t'hydrater. Ça, c'est la cure. Et ensuite, effectivement, ce dont tu es en train de nous parler, c'est ce qu'on appelle vulgairement la post-cure.
La post-cure, voilà. Tout à fait.
Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, effectivement, la post-cure pourrait effrayer, et effraie d'ailleurs, je le sais par expérience, parce que les malades d'alcool que j'ai croisés sur mon parcours, la post-cure, on peut en rigoler d'ailleurs, mais elle a des gros avantages, elle a des inconvénients. Et la réalité, c'est que on va se mettre un petit peu dans la peau de monsieur lambda là, qui paye ses impôts et qui paye la prise en charge des malades, quelles qu'elles soient, aussi bien les pathologies du cancer,
toutes les
prises en charge médicales sont payées en France par nos impôts et la sécurité sociale, entre autres. Et du coup, on est quand même content d'être bien soigné en France, et il faut le préciser. Et l'alcoolisme est une maladie, donc la prise en charge est aussi prise en charge en France pour cette pathologie là et elle doit être considérée comme n'importe laquelle par monsieur tout le monde.
Bien sûr.
Ceci dit, les places sont chères parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres d'addictos.
Il n'y a pas beaucoup de centres de post-cure en France, pas trop.
Je ne connais pas le nom, mais enfin, ça ne court pas les rues comme si tu avais besoin de te faire une radio et de te faire réparer le bras.
Bien sûr.
Du coup, la post-cure, effectivement, c'est une prise en charge qui est importante, et je n'ai pas le détail, ça fait partie des recherches, mes recherches personnelles, de comment ont été mises en place ces cycles-là de 6 ou de 7 semaines en post-cure. Et il y a effectivement une énorme logique dans tout ça. Quand on revient dans les émissions précédentes, je t'ai dit, en fait, le piccolo, l'alcoolique, là, oui. il est complètement décalé dans le temps par rapport au commun des mortels.
Le jour, la nuit, éviter le monde. Donc, socialement, on est isolé.
Ouais,
seul.
Tu vis quand t'es dans les. On peut faire très simple en fait. T'es dans la honte, dans la culpabilité. Donc le regard des autres, tu l'évites. Ouais. De toute façon, les autres veulent plus de toi parce qu'au travail, un mec bourré, on n'en veut pas.
Ouais.
Un mec dans sa voiture qui fait de la merde, on n'en veut pas.
Parce qu'un alcoolique, ça fait chier.
Ça fait chier. L'alcoolique, il fait chier. Donc comme tu fais chier partout, de toute façon, on veut plus de toi nulle part. Ouais. Donc tu vis en décalé. T'es en décalé avec notre société. Ça fait partie des symptômes pour moi de cette pathologie. Clairement, c'est que tu romps le lien social et familial. Mmh. Et en plus, cet addicto t'éloigne de la vie sociétale, sociale et familiale. Du coup, quand tu rentres en post-cure, un des très grands principes de cette post-cure, c'est de remettre du jour au lendemain des personnes qui sont à peine sevrées, c'est-à-dire qui sont allées en cure, qui sont donc physiquement plus alcoolodépendants, donc ils n'ont plus besoin de l'alcool, ils n'ont plus besoin de cet oxygène pour avancer, et ils se retrouvent du jour au lendemain dans un centre de post-cure, tout seul, avec des mecs qu'ils ne connaissent pas, mais c'est tous des... Alors, si tu es en post-cure alcool, c'est que des piccolos.
Ouais.
Moi, j'ai fait le château de Longzeg à Montauban, c'est... polytoxicomane, c'est-à-dire que
y a plusieurs toxiques et plusieurs dépendances.
C'est ça. Et là, on se retrouve là et en fait, on est tous théoriquement sevrés et on est parti pour ces 7 semaines où en fait, du jour au lendemain, tu vas devoir te lever comme si tu passais du CM2 à la 6e.
Ouais.
C'est-à-dire que tu dois être à 9h en cours. De 9h à 10h, tu as telle matière, addicto. De 10h à midi, tu as sport, obligatoire. Tu vas déjeuner tous ensemble de midi à 13h.
Ouais.
À 13h15, tu as le droit de finir ton café. À 13h30, tu es en cours et tu es reparti pour 3 ou 4 heures de cours. J'en sais rien sur... tu fais de l'art-thérapie.
Oui, c'est ça. C'est un emploi du temps vraiment très strict qu'il faut absolument tenir.
Très, très strict.
Tu n'as pas le droit de ne pas aller quelque part. Ou de zapper l'addicto.
Alors, tu as le droit de rester là où tu es et tu n'as pas le droit de sortir de l'établissement.
D'accord.
Voilà, donc c'est un endroit qui est sécurisé. Sécurisé parce qu'en fait, je le précise, il faut avoir ce genre de notion dans une réflexion. En général, quand il y a des règles, un cadre, les règles, les lois sont faites pour protéger. C'est le premier, c'est le premier amendement d'une loi, c'est de protéger le citoyen et l'individu. Donc, quand tu rentres dans un établissement comme ça, il y a des règles, t'as pas le droit de sortir, mais ça paraît un petit peu évident. Va mettre un polytoxicomane, toi qui a toujours l'habitude de courir après sa cocaïne ou sa bouteille de Sky, et tu le lâches à Montauban, au milieu des champs, avec un bar à côté et un Super U. Le mec, il est tout seul, il va pas bien, c'est vite fait ce qu'il va faire.
Oui.
Et puis tu vas trouver, parce que qu'est-ce qu'il y a en dehors des barrières? T'as le mec qui vend sa coke et Super U, ils vendent de l'alcool. Hein, 30% de TVA, c'est vite vu. Hein. Du coup, là-dessus, on est en zone protégée. On a cet emploi du temps qui est très strict. Et il est mis en place pour que le patient reprenne un rythme qui soit le rythme de monsieur tout le monde. Aujourd'hui, quand tu es dans un circuit, un schéma classique de vie en France, tu te lèves le matin, tu vas à ton activité, tu manges à midi, tu reprends ton activité, fin d'après-midi, tu as fini ton travail, et après, tu vas à ton occupation personnelle, sportive, et chacun fait ce qu'il veut. Tu dors la nuit, et tu te réveilles le matin, tu recommences. Et aujourd'hui, dans un cycle à peu près normal d'un Français moyen, tu fais ça du lundi au vendredi. Je suis bien placé pour savoir qu'en restauration, c'est le week-end ou l'inverse. Donc, je n'oublie pas chez les auditeurs ce genre de public ou les maçons qui finissent leur chantier le samedi, on est d'accord. Mais dans ce schéma classique, un Français, n'importe qui, comprend et a le même langage en termes d'emploi du temps et de vie sociale.
Ouais.
L'alcoolique ou le polytoxique, lui, il est à 10
000
lieues de
ça.
Donc c'est un des trucs qui peut faire peur. Et en réalité, en post-cure, tu n'es pas tout seul, tu es dans des groupes.
Mmh.
Et dans ces groupes, tu te lies d'amitié avec tes potes de parcours. Et finalement, tu as une entraide, tu n'es pas tout seul.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai été demandé. Y a d'autres toxicodépendants, vous êtes ensemble. Vous commencez à combien et vous finissez à combien en revanche? Ça, c'est une question Voilà, je sais que tu me disais que souvent le groupe, par exemple, à l'Audet, vous avez commencé, vous étiez combien, la post-cure ?
Alors, je vais répondre en deux temps.
Ouais.
Dans la prise en charge addicto, quelle qu'elle soit, à ma connaissance, dans les trois prises en charge, l'urgence, bah, t'es tout seul.
Ouais.
Mais en plus, t'es tout seul. Dans ta cure, t'es tout seul, mais tu peux. Et ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. T'as un proche qui peut ne pas être loin. C'est-à-dire que si t'as pas encore rompu les liens, dans ta cure, t'as le droit aux visites, t'as le droit, t'es soutenu. Et en général, c'est des proches qui te connaissent bien. Enfants, parents, frères. Mmh. En général, c'est les gens directs, l'épouse ou le mari, enfin, le copain, la copine. Et dans l'urgence, t'as personne, t'es tout seul, mais t'es pris en charge sérieusement par le corps médical. Tu bascules vite sur l'hospitalisé. Une hospitalisation plus classique où là, tu as les proches qui sont présents. Post-cure, tu es interdit de visite et tu es avec des potes de galère qui sont dans le même parcours que toi. Et ta question, c'est combien on est ? Alors, à l'ODEV, l'ODEV, c'est une petite post-cure très particulière et que j'ai adoré d'ailleurs, en fait, quand j'y repense maintenant par rapport à ce que je connais. C'était une post-cure très efficace. Je parle au passé parce qu'il y a quand même 12-13 ans là, qui sont passés. Non, pardon, je dis une bêtise. C'est ça, 12-13 ans, c'était en 2013. Je voudrais pas parler de ce qui existe aujourd'hui parce que je n'en ai pas connaissance. Et on était 8, en fait, on était sur 2 étages, 2 chambres de 4.
D'accord.
Voilà, ça fait très infantilisé.
Oui,
ça fait très cocon. Ouais. Ça fait... Alors, c'est des chambres individuelles.
D'accord.
Donc, justement, non, t'apprends à dormir tout seul.
Okay.
Et à te laver tout seul aussi. Parce qu'un piccolo, ceux qui nous écoutent, ils savent, hein, on sent pas toujours très bon. Et il faut l'assumer. Par contre, tu vas te laver ou on va même t'aider à te laver quand t'es handicapé physique et que t'arrives pas à le faire. C'était mon cas sur la deuxième post-cure. Bref, là-dessus, on est dans une prise en charge où on est peu nombreux. Pourquoi on est peu nombreux ? On peut mettre du sens à ça. Je vais répondre à ta question en répondant très personnellement. Et donc, les gens qui nous écoutent, il faut faire aussi un petit peu son chemin par rapport à qui on est et comment on entreprend les choses. Mais en fait, l'avantage du petit nombre, c'est que ça répond à un résultat de soins dans la pathologie qui n'est pas très efficace encore. Hein, il faut le reconnaître, quand tu as 100 alcooliques qui rentrent en post-cure, ce n'est pas 100 mecs qui sortent et qui ont arrêté de boire. Aujourd'hui, on le sait, voilà, tu rentres avec un bras cassé à l'hôpital, tu vas ressortir avec un bras qui va être réparé et qui va être remis en place et il va tenir.
C'est mécanique, c'est physique.
C'est mécanique, c'est physique. Voilà, là, l'alcoolisme, c'est mécanique, physique, psychologique, morale, dépendance, physique et psychologique. Enfin, voilà, c'est un peu plus complexe. Donc, on sait, il faut accepter ça et je crois que c'est un des débats qui est sans doute un des plus importants dans la prise en charge médicale, c'est que quand tu rentres en post-cure, tu vas sortir. On dit qu'on reste alcoolique toute sa vie. C'est pas pour rien. On a ce temps d'abstinence qui est nécessaire, qui est le sevrage. C'est à l'alcool, on dit en théorie, 5 jours. Et la post-cure, elle est de 6 à 7 semaines. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que les 6 à 7 semaines, on récupère un rythme de vie à peu près normal. C'est juste ce qui te permet de te remettre dans un rail quand tu sors. Et par contre, et c'est là où j'interviens avec le docteur Possos aujourd'hui, en tout cas dans une réflexion de prise en charge, c'est que, à mon sens, de prendre quelqu'un en urgence, de lui proposer un sevrage en cure, de l'amener en post-cure en lui redonnant la chance, je me suis trompé, j'ai parlé trop vite, mais la capacité récupérer une capacité à retrouver un quotidien à peu près équivalent à Monsieur Tout-le-Monde, et ben, en fait, quand tu finis ta post-cure, hop, tu te retrouves de nouveau dans ton appart plein de cadavres là-bas, dégueulasses. Et en fait, tu viens de passer 10 semaines en tout à te remettre en route. Et en fait, du jour au lendemain, tu te retrouves de nouveau dans ta situation. Donc forcément, tu n'as pas soigné tes problèmes familiaux, tu n'as pas soigné tes maux psychologiques, tu n'as pas refait ton histoire, tu n'as pas soigné ton passé pendant les 7 semaines. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est important, pour ceux qui sont en galère là en ce moment, c'est important d'entendre que, effectivement, la post-cure, C'est pas la garantie, c'est pas la sécurité sociale, tiens, pour le coup. On te garantit pas d'être bien soigné. Et pour les proches, je crois que c'est pour les proches que c'est le plus important de le préciser. C'est pour moi, aujourd'hui, la post-cure, si on admet qu'on va en sortir bien remis sur pattes, eh ben, on n'est pas soigné. Voilà. On n'est pas soigné après la post-cure. Et il va falloir réapprendre à vivre après et surtout relier, donc réapprendre à faire le lien social avec ses proches, refaire le lien professionnel, se remettre dans un rythme réel fatigant, parce que quand tu fais rien depuis des années, c'est épuisant que de reprendre une vie sociale. Et c'est compliqué, c'est difficile, c'est très dur.
C'est
et il
ça.
Faut et il faut vraiment que l'auditeur entende ça, que ce soit les proches ou le malade. C'est super comme prise en charge, c'est top même parce que tu passes souvent d'un milieu hospitalisé un petit peu pourri à une post-cure là où tout est sympa, tu fais des activités, tu crées du lien avec des gens, tu revis quoi. Hein.
C'est plus protégé.
Ouais, t'es dans un cadre protégé, donc t'es dans un cocon, fais attention à toi,
c'est
t'as
ça.
Des équipes pluridisciplinaires,
on
t'écoute, t'as le droit d'être ce que t'es, t'as pas de jugement, parce que ça c'est le mot à la mode, ne pas juger les gens, en tout cas t'as un regard qui est porté sur toi avec de l'empathie, on respecte ta pathologie, on l'a comprise plus ou moins, et on accepte qui tu es, et on accepte aussi l'échec. Ouais.
Tu disais, l'alcoolisme c'est de la sociogénèse, c'est tout à fait ça.
Ouais, alors moi je dis, ouais, c'est effectivement c'est un de mes mots, ça.
Je l'ai relevé parce que c'est intéressant. C'est vrai que c'est pas juste un bras cassé, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, c'est ça.
C'est pas on fait une radio, on plâtre hein, et c'est bon, c'est physique, c'est mécanique. Il y a vraiment, c'est multifactoriel. C'est tellement, j'ai envie de dire, chaque individu a un alcoolisme. Est-ce que je me trompe si je dis ça quelque part ?
Non, non, tu te trompes pas du tout. Et justement, cet individu, il est dans une société. Alors, comme toi et moi, on sait de quoi tu parles là quand on parle de société genèse, je vais rebondir parce que le commun des mortels, n'a peut-être pas en lui soit la connaissance, soit la métaphore n'est peut-être pas assez claire. Donc, je vais le dire en quelques mots simples. C'est que je m'octroie la capacité d'analyser aujourd'hui cette pathologie.
Oui, tu peux.
Par l'histoire de chacun. L'histoire de chacun, on est tous nés, pour l'instant encore, on est tous encore du résultat d'un homme et d'une femme. On est un petit embryon qui commence à vivre hein, et il se développe dans le ventre de la maman. Quand on est dans le cercle familial qui peut être déjà fracassé ou pas. Et le temps de l'enfance, j'épargne l'auditeur de mon point de vue de l'enfance au passage du monde adulte, mais du passage de cette croissance enfant-adulte. Mais vient déposer des incidents de parcours,
des événements de vie, des émotions,
et va te forger en fait.
Et c'est ça qu'il faut traiter.
Alors
aussi, il y a le physique en cure et il y a aussi tout ça derrière.
Tu vas un peu vite.
Ouais.
On peut pas traiter ça. Ça, c'est ce qui est responsable. Voilà, c'est ça la sociogénèse. Si je finis le parcours après scolaire, formation et passage à la vie d'adulte, où sans doute, à mon sens, tu prends conscience de qui t'étais enfant, chez quels parents, dans quelles conditions de vie, etc. Puis que c'est à ton tour un peu d'assumer ce rôle. Bah, tu regardes la vie un peu derrière et puis tu comprends que t'as manqué de ça, t'as pas réussi ça, t'as déçu ton père, t'as déçu ta mère, t'as raté des étapes, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, du coup, tu es face aussi à... moi, j'ai un gros échec dans ma vie, c'est le monde pro, football. J'ai toujours voulu satisfaire mon père, qui en avait jamais assez. J'ai jamais entendu mon père me dire que ce que je faisais, c'était bien, alors que j'ai fait que de l'élite dans tout ce que j'ai touché. Et en fait, cette vie sociale, cette vie familiale, cette vie... cette croissance personnelle, ce développement personnel, cette construction physique et psychologique fait que y a un moment où t'arrives et il y a eu des manquements et ces manquements, l'alcool vient les penser, vient les combler et l'alcool est magique pour ça et une fois qu'il s'installe et c'est là où, où, où la pathologie est vraiment hard, c'est qu'en fait, on n'est vraiment pas tous égaux par rapport à ça. Et moi, j'ai été consommateur excessif à me faire plaisir jusqu'à mes 30 piges, quoi, grosso modo. Et quand je me suis fait attraper par l'alcool, mais je pouvais même pas prévoir que ça allait m'arriver. J'étais bien sûr celui qui tenait le plus, celui qui buvait le plus, celui qui se battait pas en plus. J'avais un public, j'étais un public agréable quand j'avais consommé. J'étais plutôt festif, j'aimais danser, j'aimais rigoler,
Vivant.
Ouais, j'étais un bon vivant. Puis en plus, je buvais des alcools de qualité. Aujourd'hui, on sait que les alcools sont différents.
Oui, t'as
aussi
un palais.
Ouais, j'ai un palais. Et puis, j'avais bon goût aussi. Enfin, bref, il y a tout ça. C'est ce qui est singulier dans la sociogénèse de chacun.
C'est ça.
Et dans la mienne, j'ai eu mes trucs dont j'ai pu, après et aujourd'hui, réussi à traiter, penser et récupérer et comprendre.
Dans la deuxième post-cure, tu disais que vous étiez
polytoxicomane.
Je dis multi, mais c'est poly. Merci de reprendre. À chaque fois, j'oublie le mot poly.
En fait, pendant que tu dis ça, polytoxicomane, tout simplement, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient en train de fumer des petits bédos, là, je pense aux jeunes avec leurs petits pétards de bœuf. Je suis passé par là, c'est sûr. La bœuf, c'est sympa, hein, le THC. D'ailleurs, on milite pour avoir notre petit bédo de, comment ils appellent ça, là, le CBD. J'ai mon petit CBD, je suis tranquille, j'ai ma petite dose de THC. Le gars, il va taper son petit rail de coke là en boîte de nuit parce que pauvre petit, il a 20 ans, il n'a pas encore le cardio d'un adulte et pour aller faire la fête, il faut qu'il s'excite un peu la nouille là. Et puis pour se détendre à un moment, il va boire un petit verre tranquille, il va se poser. Et en fait, cette consommation, elle est on pourrait presque dire maîtrisée parce que l'effet du toxique, il est présent, mais il est pas significatif en termes d'addiction. Il est juste en modification. C'est un modificateur.
Oui, c'est une modification
d'état comportemental. Quand il est consommé comme ça, c'est un mec. Sauf que tous ceux qu'on vient de citer, le tabac et autres, en fait, ces toxiques-là, plus tu vas les consommer, plus ton corps va s'habituer au deuxième effet qui se coule, là, celui que tout le monde attend. Effectivement, on va parler à ce moment-là d'envie d'être en société, d'envie d'être dans le même état que ses copains, d'avoir la même tête de teubé, quoi.
C'est vrai.
Parce que qu'est-ce que ça m'agace. Et en fait, les gens perdent leur personnalité. Mmh. Et malheureusement, dans ces mecs-là, il y a des gars très bien. Hein, tout le monde est... Il n'y a pas de... l'éthanol, il ne choisit pas comme ça. Hein. Il va choper un mec ou deux sur la centaine, là, et bam, il va...
Allez,
j'ai
dépendant.
Dit un ou deux, c'est un peu plus que ça. Oui. En France, aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est 7 millions de malades d'alcool, on est 70 millions, je laisse le calcul aux gens, ça fait 10%. Non, je suis obligé de le dire, c'est tellement trop. Donc, c'est 10% de la population qui va se faire niquer.
Oui.
Et ouais, tout le monde fait le malin. Mais il y en a 10%, ils vont se faire attraper par l'éthanol. Et là, la vie est moins drôle. Voilà.
Ah,
parce que quand l'éthanol t'attrape, pourquoi éthanol? Parce que c'est lui qui va, encore une fois, compenser les deux sortes d'états, c'est-à-dire l'apaisement et l'excitation. Donc on finit par éthanol. Voilà, c'est la boucle, éthanol.
Du coup, dans cette deuxième post-cure, je voulais savoir si ça faisait une différence dans l'accompagnement global ou est-ce qu'il est le même finalement? Parce que c'est quand même de la dépendance.
Ah, là, c'est presque rigolo ta question parce que je vais répondre de manière très simple à ta question en disant que quel que soit le toxique, le principe, le mécanisme en termes d'addiction est strictement le même.
Oui.
Donc, on peut traiter un polytoxicomane comme on peut traiter juste un fumeur.
Ouais.
Voilà. Bon, là, dans la post-cure, moi, j'ai rencontré des mecs avec qui j'ai lié d'amitié, forcément. On était dans le même sac.
Bah oui, est-ce que vous vous soutenez?
Ah
oui,
qu'il
y a une entraide? Est-ce que vous vous accompagnez les uns les autres dans cette démarche-là et dans ce moment de vie quand même très important?
Justement, j'allais te dire que dans le groupe qu'on était, nous, on était... je ne sais plus, c'est 12 ou 13, ça n'a pas d'importance. Pourtant, ça en a, parce qu'on a eu un joli taux de réussite. On est sorti à 6, je crois.
Ah oui, d'accord.
C'était 50%, ce qui est exceptionnel.
D'accord.
Donc, on a été ultra soudés.
Ah, il y en a la moitié qui repartent quand même.
Ouais. Il y en a la moitié dans mon groupe.
Oui.
C'est ça qui est exceptionnel.
Ouais.
Donc, je crois qu'on a commencé à 13 et qu'on a fini à 6. Abstinent sur une période de 7 semaines plus le sevrage.
Ouais.
Donc oui, c'était une belle promo. Voilà.
Okay.
je suis en train de penser à une chanson que que j'ai pas encore nommé dans Escapade, mais qui vient de me monter à la tête, je me mets là, hop, voilà, comme ça je l'aurai. Dans ce groupe, dans mon groupe particulièrement de cette post-cure, c'était en 2015, j'avais toutes les formes d'addiction sévère. Voilà. Et donc il y a une copine dans le lot qui était addict au benzo.
D'accord.
Alors elle était addict au THC, au tabac, l'alcool était là, mais les benzos, et donc là je pourrais vous raconter des petites anecdotes croustillantes la concernant, mais je vous fais juste le tableau. Elle arrivait à se démerder, à toujours avoir des ordonnances médicales okay. pour pouvoir aller chercher des benzos. Plus fort les uns que les autres. Donc elle avait des benzos au taquet, et comme elle était habituée aux benzos, elle en consommait beaucoup, ça lui faisait plus rien. Et comme elle en consommait beaucoup, ça lui faisait plus rien, bah, il lui en fallait beaucoup. Et comme elle en avait beaucoup, elle avait trouvé aussi le côté business un peu alléchant de la revente. Voilà, je vous laisse imaginer le tableau quand t'arrives dans la rue avec, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais vendu de cocaïne, mais du coup, t'arrives avec tes petits pochons de cocaïne. Voilà, j'en sais rien, tu vas faire ton billet, là, voilà, on sait tous à peu près comment ça marche. Mais elle, en fait, elle arrive, elle est dans un café, elle peut te mettre sa plaquette de médoc.
Enfin, oui, c'est légal.
Ouais, c'est presque légal, ça l'est pas. Mais attention,
quand
même,
il y a
peut-être des jeunes qui nous écoutent. C'est illégal de faire du trafic, les gars, on vous le rappelle.
Oui, c'est illégal de faire du trafic, je le rappelle.
D'ailleurs, consommer de l'alcool, c'est avec modération.
Oui, tout à fait, mais on met pas un petit sachet de cocaïne sur table basse, comme
voilà.
On met une boîte de médicaments.
Ouais, tu vois, une petite boîte de Stinox.
Ça fait pas le même effet.
C'est pas le même d'elle, quoi, tu vois.
Non, donc, carrément pas.
Il y avait cette copine qui, elle, était addict au benzo, donc c'est particulier. Je précise aux auditeurs qui nous écoutent que j'ai été, moi aussi, addict au benzo. Et,
ouais,
et
c'est ça, ce que tu nous disais dans les émissions, dans les premières émissions.
C'est une sacrée calamité à arrêter. Ouais, c'est pas mal compliqué, ça, à arrêter. Et après, bah, cocaïne, héroïne, forcément, alcool, bah, tous, quasi, hein, puisqu'on finit tous par là. Et moi, je me suis lié d'amitié avec un gars qui s'appelait Thibaut.
Ouais.
On s'est rencontrés, il a une dizaine d'années de moins que moi. Il avait, parce que malheureusement, la fin de ma petite histoire-là est tragique. Mais d'ailleurs, je te laisserai balancer le son, parce que j'ai une petite remontée là de souvenirs qui n'est pas top. Mais Thibaut, on est parti sur la même post-cure. Et on est arrivé ensemble dans ce groupe. On a vécu 7 semaines ensemble à fond, la piscine, l'équithérapie, les films aussi sur les addictos, le cours d'addicto. C'était un petit gars super éclairé, mais il était abîmé. Et donc je l'ai soutenu dans sa compréhension et de la pathologie. Du coup, il s'en est sorti, alors que vraiment, c'était peine perdue. Chaque jour qui passait, c'était un jour gagné. Et on a fini la post-cure tous les deux en même temps, à un jour près. Et lui, il devait se barrer du château parce que sa prise en charge se terminait, je vais dire une connerie, le mercredi. Et moi, la mienne se terminait le jeudi.
Ouais.
Et en vrai, il ne faudra pas le dire au directeur du château de Longzec, je lui dirai moi-même. Mais du coup, en fait, Thibaut, il a fait genre, il partait et je l'avais accueilli dans ma chambre.
Revenu.
Ouais, on avait fait comme des gamins, on avait dormi dans la même chambre tous les deux. Et en fait, pour ne pas avoir froid, je lui avais dit « chour ». Pour les jeunes, chouré, ça veut dire vol. Vole ta couverture, ta couette. Et on avait des couettes anti-feu colorées, couleur arc-en-ciel un peu. Et Thibaut, il était incapable de se coucher sans une clope au bec. Et donc, dans sa post-cure, il s'est couché tous les soirs avec une clope dans son lit. Je ne sais pas combien de fois il a changé de couverture, d'ailleurs. Et ses couvertures, les clopes, elles finissaient dans la couverture.
Donc
brûlées, mais c'était des couvertures anti-feu. Sinon, il aurait brûlé tous les soirs où il s'est endormi. Et donc, quand il s'est barré, j'ai gardé cette couverture. Et aujourd'hui, elle orne mon lit régulièrement quand c'est son tour dans ma pile de couettes. Là.
Ouais.
Et voilà, c'était plus qu'un ami. Et quand je l'ai posé à la gare de Montpellier, donc le jeudi, quand on est partis ensemble, il est parti direction Lyon. Et 2-3 jours après, sur les réseaux sociaux, on essayait de me capter. Je ne savais pas qui c'était. Et en fait, il s'était fait régler dans un four... sur un parking, voilà.
D'accord.
Règlement de compte, dette de drogue. Voilà.
Ok, écoute, on va lancer le morceau. Tout de suite, Antoine, je te laisse balancer le son.
seul dans la pénombre, avec mon passé, cherchant à me remémorer les joies, les raisons pour lesquelles j'encaisse la monotonie de cette vie. Plus désarmé qu'au premier jour, les années blanches de ma jeunesse se sont laissées posséder. Quant au futur, au futur, j'ose même pas y penser. Vider ma vie, et pourtant, non, je n'ai pas choisi. Dans le présent, le caméléon.
Tout a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas, ce qu'il m'arrive d'envier parfois, ce que la vie a doté d'une chance, mais moi, malheureusement, voilà, je n'en suis pas là. Et privé de ça, pour qui devrais-je mener un combat? De toute façon, pas la peine, je connais la rengaine, mais j'en ai pas la force. Mon amour pour la vie s'est soldé par un divorce. Moi aussi j'ai rêvé de connaître l'idéal idylle, le désir, la passion pour ne pas perdre le fil. Quitter sur le champ la ville, s'isoler sur une île. Au lieu de ça ma vie file, se faufiler des fils sans domicile. Fixe, fixe, fixe. J'ai toujours relevé la tête même à genoux, mais ce soir je suis fatigué de lutter et pense sérieusement à tout déconnecter.
Et son mentor, comme si la mort était déjà là, tout près de moi. Le froid me lacère la peau, comme cette vie dont je n'ai plus envie. Égaré dans ses pensées, où tout ne cesse de m'apitoyer. Voilà, ce soir je vais craquer, ne pouvant échapper à mon destin.
L'âme stressée, le cerveau compressé, comme usé par la guerre des nerfs à laquelle je dois me livrer. Subir sans pitié, sans répit, voilà ma vie. Gris semble l'avenir et noir est la couleur de mon esprit. Je n'essaie plus de comprendre ni de me faire entendre. Je suis le troupeau avec un numéro collé dans le dos. Mais trop boulot, aseptisé le cerveau. Mon ultime évasion se trouve dans le flot de ces mots. 40 ans de déboire, passé à la lumière du désespoir. Tu peux me croire, ça laisse des traces dans le miroir. J'ai les neurones affectés, le cœur infecté, fatigué de lutter, de devoir supporter la fatalité et de voir une vie de raté. Voilà pourquoi je m'isole, pourquoi je reste seul, seul dans ma tête. Libre, libre d'être un esclave en fait, battant en retraite, fuyant ce monde d'esthète en me pétant la tête. Ok, j'arrête net, j'appuie sur la gâchette.
Vous êtes sur Radio Escapade à 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges-le-Vigan et sur toutes les petites étoiles sur radioescapade.org. Patrick, tu as le courage d'à chaque fois de terminer tes post-cures, le courage, la volonté. Tu t'engages à chaque fois. Et je voudrais qu'on déculpabilise un peu et qu'on puisse faire comprendre aux accompagnants que parfois, bah, la rechute est comme inévitable. Est-ce que c'est le bon mot?
Heureusement, non, ce n'est pas le bon mot.
Okay.
Je connais aujourd'hui peu de gens qui ont un parcours comparable ou similaire au mien. Je prends des pincettes parce que je ne suis pas le centre du monde, donc loin de moi l'idée de pouvoir me comparer à tous les gens. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, on est nombreux donc, à être dans cette situation. Cependant, il faut, pour l'auditeur, il faut regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Dans le verre à moitié vide, il y a la rechute.
Oui. Voilà.
Dans le verre à moitié plein, j'ai envie, moi, de mettre cette rechute parce que il est évident qu'aujourd'hui, je ne connais pas un mec malade d'alcool, alcoolodépendant, dont dont on est sûr que le toxique ne peut pas sortir de sa vie, sinon il est en incapacité totale. Je connais pas un mec qui a fait un parcours de soins, il s'est dit, il a accepté d'être alcoolique, il a pas été dans le déni, il a été en cure. Donc, il s'est sevré, il s'est détaché physiquement du produit. Il a attaqué une post-cure et encore, allez, soyons fous, il a fait une post-cure de 6 semaines dans un centre où il y a beaucoup de monde et qui a un turnover important.
Ouais.
Et le gars, il s'en est sorti et il s'est reconverti, repassé des diplômes et a changé sa vie, etc.
C'est rare. Bon. Donc, on est d'accord.
Effectivement, je connais pas beaucoup de gens qui ont fait ça et qui ont réussi cette résilience, qui sont parvenus à se soigner comme ça. J'ai réussi à faire ça et j'en suis très fier.
C'est pour ça que t'es là.
Exactement. Et j'aimerais aujourd'hui pouvoir donner des outils un petit peu faciles à utiliser pour en sortir. Et un des premiers outils qu'il faut avoir dans sa besace quand on est alcoolique ou qu'on est proche d'alcoolique, c'est que la rechute et t'as dit inévitable. Ouh, c'est dur.
Ouais.
La rechute, elle fait partie du parcours.
D'accord.
Voilà, elle fait partie de la résilience. Elle fait partie de la prise en charge médicale. On sait, évidemment, et je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour ça que je parle de sociogénèse qui amène à l'alcoolisme. C'est parce que si on le fait de manière très simple, très binaire, t'es alcoolique parce que dans ton histoire, il y a des choses qui n'ont pas été. L'alcool vient te permettre d'aller mieux. En tout cas, c'est un sacré leurre. Et là, je sais pas où t'en es techniquement avec l'interview du docteur Pascal Possos, mais il l'explique mieux que n'importe qui, à mon sens. C'est un génie. Et l'alcool vient effectivement comme un magicien, comme un il est capable de tout, éthanol, voilà, et il arrive à tout soigner.
Il a la multifonction.
Ouais, il soigne tout.
C'est ça.
Et donc quand t'es alcoolique, t'es soigné de tout. Ça veut dire que en fait, il te masque ta réalité, il te masque ton histoire, il te fait oublier d'où tu viens, qui tu es, les galères que t'as, pourquoi t'en es là, pourquoi t'as sombré dans l'alcoolisme quand t'en as pris conscience.
Ouais.
Et que voilà, et en fait, de sortir de ça, il y a un parcours nécessaire et dans le parcours, il y a cette rechute qui est fréquente. Voilà. Moi j'ai rechuté 200 fois peut-être.
Ouais,
j'ai arrêté de boire 200 fois.
C'est ça.
Mais j'ai pas arrêté 200 fois pendant une semaine avec une post-cure, avec moi j'ai un parcours qui est rapide d'ailleurs, même à ce niveau-là, puisque je n'ai fait que 2 post-cures, ce qui est complètement extraordinaire en fait.
Voilà, ouais, c'est peu, finalement.
J'ai croisé des gens qui en ont fait 10, 15, 20 et ils s'en sont pas sortis, quoi.
C'est voilà. Ça.
Ça fait partie de la pathologie, malheureusement. Ouais.
Ouais. Et si j'ai bien compris, dans ces rechutes, tu reviens en urgence. Du coup, je voudrais qu'on aille à l'hospitalisation de Quissac.
Ouais,
c'est dans ces rechutes-là que tu réatterris en urgence et que du coup,
ouais,
tu choisis.
Ouais, alors là, tu me prends un peu de cours parce que c'est un passé
oui,
que j'occulte maintenant.
Oui, je sais que c'est un peu, ouais, bien sûr.
J'ai le schéma, mais j'ai pas trop de précision.
En tout cas.
Ce que je peux résumer, si j'ai bien compris ta question, c'est que je suis dans un cycle infernal sur des prises en charge en urgence à 7. J'ai ce nom. Du docteur Possos qui me tombe dans les oreilles. Je vais d'une manière ou d'une autre rencontrer le docteur Possos sur la clinique de Quissac. J'y arrive en octobre 2014.
Oui. Alors, tu es rentré à la clinique de Quissac un jeudi 2 octobre 2014. C'est ça?
Ah ouais, c'est incroyable que, tu vois, vraiment je te fais confiance, hein, je t'ai donné mes dossiers, t'as
oui.
mis le temps.
Oui, je sais.
Mais en fait,
j'ai fait mes recherches.
Je sais pas si, si je vais vous l'expliquer parce que ça pèse tellement, c'est incroyable, je suis rentré un jeudi, et en fait je serais rentré un mercredi ou un vendredi,
ça aurait pas été la même,
ma vie
pas
aurait
la
été
même
différente.
Ouais.
et c'est simple à comprendre, en fait la clinique de Quissac sur les accueils en urgence là-bas, en fait le jeudi c'est donc la
des
psychiatre
permanences.
De permanence qui t'accueille, et ce jour-là la psychiatre qui est en place va devenir ma psychiatre et va devenir
C'est une rencontre décisive pour toi.
Ouais, bah elle a changé ma vie. Ouais.
C'est ça.
Ouais.
C'est que
j'ai parlé beaucoup du docteur Possos.
Ouais, mais il y a il y a plusieurs protagonistes dans ton parcours de soins qui sont très importants.
Ils sont nombreux même.
Ils sont nombreux.
Ouais.
D'abord le docteur Possos, ensuite cette psychiatre qui vraiment, si ça avait été un autre jour, ça aurait pas du tout été la même dans ton parcours de soins.
Ouais.
Ça a une importance cruciale.
C'est ça.
Et
bah, chronologiquement, c'est ça, le docteur Possos
en premier.
En 2013, et du coup, ma psychiatre à ce moment-là, en 2014, c'est incroyable.
On en reparlera.
Le jeudi. Mmh. Ouais.
Et puis on en reparlera parce que forcément, les émissions sont pas terminées, et puis il y a des anecdotes aussi.
Absolument.
Que tu vas nous raconter.
Ouais.
Alors, moi, je voudrais revenir sur la définition de l'accompagnement. J'ai fait plein de recherches.
Ah.
Il y a plein de définitions, en fait. Il y en a 10 définitions de l'accompagnement infirmier, définition de l'accompagnement de l'aide-soignante, définition de l'accompagnement d'un éducateur, définition de la... En fait, il y a plein d'accompagnements.
Et, ouais.
Et j'ai pris juste la définition qui renvoie au terme de compagnon qui est formé par le préposé cum qui signifie avec et de panis qui signifie pain.
Ouais.
Voilà, je me suis dit ça va être global. Et le compagnon est celui qui partage son pain avec quelqu'un.
Ouais.
Et c'est aussi faire un bout de chemin ensemble. Avec ton expérience, je sais que tu as un regard très intéressant sur l'accompagnement. Que tu as justement plusieurs personnes qui ont été là sur ton parcours, qui ont été très importantes, qui t'ont accompagnée. Je sais que tu as participé à la formation équipe pluridisciplinaire avec le docteur Possos en tant qu'intervenant, en tant que patient expert. Moi, je voudrais avoir ton regard là-dessus, sur l'accompagnement des patients en toxicologie. Quel est ton regard là-dessus ?
Bah déjà, je te félicite, hein, parce que il y a pas beaucoup de gens qui seraient allés choisir cette définition.
Cette définition de l'accompagnement.
Et je vais même la reprendre un petit peu parce que elle fait partie de mes écrits que je diffuse aussi et qui font partie de ma reconversion professionnelle. Et effectivement, le compagnon, c'est la personne avec qui on rompt le pain.
C'est ça.
Et rompre le pain, aujourd'hui, et je crois que les auditeurs qui nous écoutent quand même resteront bien français au fond d'eux. Le repas, partager un repas avec quelqu'un.
Ça a du sens, c'est symbolique à fond.
C'est quelque chose d'important, c'est dans notre quotidien, familialement, qu'est-ce qu'on perd en ce moment à manger rapidement, vite fait, de la merde en plus.
C'est vrai.
Alors qu'avec 3 conneries, on peut faire un petit truc et partager du temps à table. Et peut-être que moi j'ai été, je fais le raccourci, mais j'ai peut-être été alcoolique parce que finalement j'ai pas passé assez de temps à table avec mon père.
Mmh.
Voilà. Et donc effectivement, le compagnon, c'est celui avec qui on rompt le pain. Et effectivement, tu soulignes que l'accompagnement, bah effectivement, on peut mettre un accompagnement en face de chaque personne. C'est très singulier l'accompagnement. Et donc accompagner quelqu'un, ça veut dire, à mon sens, être avec lui sur son parcours. Là, on parle d'un parcours de vie, c'est pas anodin le titre que je vous ai mis. Thibaut, je lui dédicace cette musique parce que en fait, le texte qu'on écoute, on peut tous se l'approprier quand on a été un peu fortement en galère. Et là, dans le texte, on parle de suicide, mais bon, d'aller dans le trafic de drogue, c'est un peu du suicide prématuré. L'oseille, c'est bien, mais la chute, c'est ça. Et donc, effectivement, le partage de ce parcours de vie, eh ben, les soignants, ils sont nombreux dans une équipe
pluridisciplinaire
d'addictos. Et effectivement, j'ai un regard qui est très personnel et là-dessus, que j'ai fondé sur mon expérience de vie et mon parcours de soins, mon histoire. Et je le partage, c'est ça que je partage avec le docteur Possos aujourd'hui. Et dans ta question, tu es en train de mettre le doigt très précisément sur ce pourquoi le docteur Possos m'invite à réfléchir avec lui sur quel accompagnement on peut proposer aux personnes qui sont atteintes d'addiction toxique et qui sont malades. Ouais. Alors, je vais essayer de répondre brièvement à cette question. Je la fais de manière synthétique. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une prise en charge médicale pour addicto, tu vas trouver un addictologue. En général,
oui.
C'est lui le patron de la prise en charge, ou un psychiatre, parce qu'il y a une délégation, on manque d'addictologues en France aujourd'hui. Mmh. La formation, c'est une pathologie qui est nouvelle, donc la formation, elle est encore nouvelle aussi. Et c'est
elle
ça
évolue, de toute façon.
Et elle, oui, et puis elle va faire plus qu'évoluer, parce qu'aujourd'hui, les addictions restent une bonne confusion de non-connaissance et de non-maîtrise.
C'est ça.
J'ai pas un bon français là, mais c'est pas grave. Les gens ont compris ce que je dis, on connaît pas cette maladie, on la maîtrise pas, on sait pas bien la soigner. Donc voilà, ceci étant dit, on a un psychiatre et un addictologue qui vont être en
lien,
en chef de prise en charge, ouais. Et ils vont travailler avec un médecin généraliste. Ouais. Un médecin généraliste, il fait toujours partie de la haute hiérarchie.
Oui, c'est le médecin.
On va avoir le psychologue qui lui aussi fait partie de la haute, un peu moins, mais quand même. Et puis après, on va avoir toutes les blouses blanches. Alors là, je ne vais pas les citer toutes, je vais en oublier, mais je vais citer moi l'infirmière, je vais citer l'infirmière d'animation, je vais citer le kiné, je vais citer le kiné, chacun le met où il veut, hein, mais dans la prise en charge médicale, bon, ça reste un kiné, on va dire, comme vulgairement dans l'équipe médicale, malheureusement, alors que moi, mon kiné m'a sauvé la vie aussi. Donc, j'attache beaucoup d'importance, c'est pour ça que je nomme le kiné. Et puis après, je veux ne pas oublier l'assistante secrétaire médicale. Mmh. Et après, l'équipe du quotidien, c'est-à-dire le mec qui te fait à bouffer, en général c'est le cuistot, la petite nana qui fait ta chambre, la femme de ménage, la femme de chambre, et puis...
Et le mec qui fait tout dans l'établissement, qui change les ampoules, qui
exactement,
jardine...
Exactement, ouais, le technicien. C'est ça, le technicien, c'est un sacré complice, lui, dans une prise en charge. Et il y en a un aussi, et c'est pas anodin dans notre région, c'est le jardinier.
Ouais.
Voilà, celui qui s'occupe des extérieurs, parce que quand t'as du temps à passer,
c'est à l'extérieur.
Arrêter l'alcool, c'est aussi apprendre à ne rien faire. Et quand t'es à l'extérieur, au soleil, c'est pas la même chose d'être assis sur un banc confort, propre, sans bestioles et sans pics de bois, que sur un truc lisse, bien peint et propre.
Ouais, voilà. Ça fait partie du cadre.
Ça fait partie du cadre dans lequel t'évolues dans ta prise en charge. Et aujourd'hui, ouais, effectivement, dans cette prise en charge, j'ai participé effectivement à la formation de l'équipe en place à la clinique du Pic Saint-Loup dans notre région.
Ouais. Et tu dis que chacun a son importance, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, certes, ouais. Alors, que effectivement il y a les grands patrons quelque part.
C'est ça.
Mais que et moi la première, j'ai été hospitalisée dans ma vie une fois, et celle qui va passer le coup de balai dans ta chambre et qui te demande sincèrement est-ce que ça va, tu vas effectivement aller vers elle dans la parole, elle va écouter. Enfin, elle a son importance aussi. Et elle a aussi son mot à dire dans « Bon, comment va monsieur l'église aujourd'hui en réunion de transmission ?»« Moi, j'ai balayé sa chambre et il m'a dit ça, ça et ça. » Voilà. Donc, elle a aussi un rôle important pour toi.
Ah, le mot est sorti. Donc, rôle, et je reprends ta définition, tu as dit compagnon. Voilà. Ouais. Et en fait, l'équipe pluridisciplinaire, et c'est pour ça que j'ai donné un peu la hiérarchie existante aujourd'hui dans un parcours de soins tel que l'addicto. Mais mon regard à moi sur la prise en charge en addicto, c'est qu'il faut casser cette hiérarchie et il faut que tous les compagnons de prise en charge et la même tenue, la même hauteur, la même distance avec le patient. Et cette distance doit être de proximité, puisqu'on parle de sociogénèse, donc on parle de vie sociale, on parle de vivre ensemble, on parle d'accompagner, on parle de rompre le pain. Donc là, en quelques phrases, le résumé, c'est quoi? C'est, à mon sens, plutôt que d'avoir un psychiatre ou un addictologue habillé avec son Starco Calvin Klein et tout ce qu'il a et toute sa connaissance et à côté le cuistot qu'on voit même pas, qui change dans son vestiaire et
qui derrière,
qu'on considère même
dans
pas
sa cuisine, qu'on voilà. considère pas.
À mon sens, il faut casser tout ça et il faut mettre tout le monde autour de la même table avec le patient.
C'est ça.
Et que chacun puisse apporter son regard par rapport au quotidien de ce gars-là.
C'est ça.
Là je dis ce gars-là, je me mets à la place de l'alcoolique qui est en soins.
Ouais.
Et pourquoi ne pas partager un billard avec l'addictologue qui jouerait avec le cuistot,
c'est
et
ça.
Que moi je joue joue avec l'ASH.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Et autour de cette partie de billard, la réalité, c'est que si on casse un petit peu cette
les
structure
codes,
sociale, les codes, exactement,
ouais.
Et ben, et qu'on devient un peu compagnon et qu'on rompt le pain ensemble et qu'on joue.
Ça change, ça change.
Mais
beaucoup
tu délies les langues et en fait, se soigner d'une addicto, c'est réussir à dire les choses qu'on n'a pas dites et soigner, aider quelqu'un à sortir des addictions, parce que c'est un combat que tu mènes avec toi-même, hein, c'est ton corps et c'est toi qui,
ouais.
qui peux vaincre Goliath là, qui t'habite.
C'est ça.
Et ben, il faut réussir à dire les choses, il faut que les gens entendent tes difficultés, là où tu pêches, là où tu galères.
Là
quoi.
Où tu galères, voilà. Là où tu as du mal.
Et je suis en train de travailler là-dessus. Maintenant, c'est très compliqué, il faut allumer son phare pour que les gens nous entendent, nous
c'est
voient,
ça.
Et qu'ils viennent vers nous parce que la lumière les intéresse. Quoi.
C'est voilà. ça. Et vraiment pouvoir communiquer là-dessus. Je trouve
ouais.
que c'est super intéressant. Ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra parce qu'il
ouais.
y a vraiment des choses qui sont importantes dans ton parcours
et puis
de
là,
soins.
Des anecdotes, j'en ai.
Des anecdotes,
on
en a plein. Et effectivement, toi, tu parlais de jeu. C'est vraiment toi ce qui t'a aussi porté,
le jeu, de jouer. Ouais.
Et ça, là-dessus, on reviendra là-dessus sur une émission parce que c'est vraiment assez génial. Ton regard est super intéressant. Merci Patrick pour cette émission, elle touche bientôt à sa fin. C'est super que tu sois là à chaque fois à Radio Escapade pour pouvoir communiquer tout ça. C'est
et
toujours
ouais,
un plaisir.
Ça passe vite,
ça passe à une vitesse
son.
De la ouais. lumière. Merci à Antoine qui était avec nous à la régie aujourd'hui. Merci Antoine.
Merci Antoine.
Et je te dis à bientôt.
Salut Mel, à bientôt.
Sur Radio Escapade. Ciao.
Ciao.